grand dialogue
Sigikafoba
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chen Nibiru.
Halud Mouni
Chen Nibiru Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 16 juillet 2014. Bienvenue à ce débat. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur la mobilisation de la communauté internationale autour de la culture malienne, avec bien sûr en toile de fond la reconstruction des sites détruits dans le Nord. Voici les points d'articulation de ce débat, l'état des sites culturels au Mali et les actions en cours pour leur bon fonctionnement, les défis de la rénovation des sites et enfin les perspectives du secteur culturel au Mali. Nos invités, Yacouba Berthé, directeur de la Tour d'Afrique de Bamako, Yamoussa Fané de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit dans les régions du nord du Mali, et enfin Abdelkader Haïdara, propriétaire de bibliothèque à Tombouctou. Il sera au téléphone. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Dera est à la technique.
Studio Tamani.
L'état des sites et les actions en cours. Depuis quelques jours, les partenaires techniques et financiers du Mali s'activent autour de la culture au Mali. En plus de l'Allemagne, il y a la MINUSMA, les États-Unis et d'autres que j'oublie certainement. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans le cadre du soutien étranger en faveur de la culture malienne? Là, je m'adresse à Monsieur Yamoussa Fané de la cellule technique de... pour la reconstruction du patrimoine détruit dans les régions du nord du Mali.
Okay, merci. Je vais commencer par remercier d'abord cette initiative. Et pour vous dire que effectivement, depuis 2012, suite à la double crise sécuritaire et institutionnelle, donc le patrimoine culturel du Mali, que ce soit le patrimoine classé national ou le patrimoine inscrit sur la liste de l'UNESCO. Donc tous ces sites ont subi réellement des dommages. Et également le patrimoine immatériel, toutes les expressions culturelles également ont été interdites. Et donc au sortir de la crise, immédiatement, donc depuis le 18 février 2013, le gouvernement du Mali, en collaboration avec l'UNESCO et le soutien financier de la France, a organisé une table ronde. Et cette table ronde a permis réellement de mettre en place un plan d'action pour la réhabilitation du patrimoine culturel. Et immédiatement après réellement l'organisation de cette table ronde, il y a eu réellement une série d'activités. Donc la visite... historique, si je peux me permettre, de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à Tombouctou. Ensuite, il y a eu des experts qui sont venus, et puis également les experts maliens qui ont eu une série d'activités, c'est-à-dire évaluer l'ampleur réellement des dégâts. Et ensuite, on a mis en place un document de stratégie de reconstruction et qu'on a validé le 4 avril dernier. Donc, réellement, les activités se poursuivent et je pense que le ministère de la Culture réellement joue sa partition pour la réhabilitation de ce patrimoine détruit.
D'accord. Alors, nous avons également avec nous Yacouba Berthé, directeur de la Tour d'Afrique. Alors, certes, ce n'est pas que les sites touristiques du Nord qui ont souffert pendant cette crise au Mali. Il y a également des sites, des monuments ici au Sud qui ont beaucoup pâti de cette crise également. Dites-nous, jusqu'à quel degré est-ce que des sites comme la Tour d'Afrique ont souffert durant cette crise, Monsieur Berthé?
Ok, je voudrais joindre ma voix à celle de M. Fané pour vous remercier et vous dire combien nous sommes heureux de participer à un tel débat. Effectivement, comme vous savez, toute crise a des répercussions forcément et la culture en la matière au Mali est sérieusement touchée. Et particulièrement si on veut parler du cas des sites au niveau du Sud. Pour particulièrement le cas de ma structure, la Tour de l'Afrique, c'est vrai qu'il y avait déjà des problèmes latents, il y avait déjà les problèmes que nous connaissions, mais la crise est venue accentuer un peu l'état des lieux de ces monuments ou sites qui étaient accessibles à travers les touristes. Et le fait qu'on ne bénéficiait plus de la visite des touristes, les touristes ne venaient plus dans le pays, c'était, ça joue surtout sur le fonctionnement de ces structures, mais aussi sur la visibilité, parce que les bâtiments et autres ont été sérieusement dégradés durant ces crises. Et c'est pourquoi il était nécessaire, de faire une sorte de rénovation pour que ça puisse donner une nouvelle image, en tout cas au Mali émergent.
Alors, nous avons également en ligne Abdelkader Aïdara, il est propriétaire de bibliothèque à Tombouctou. Monsieur Aïdara, dites-nous quels sont les partenaires aujourd'hui qui évoluent à Tombouctou et qui viennent en soutien au Mali.
Voilà, moi, je vous remercie beaucoup pour me faire participer à ce débat très très important aujourd'hui. Qui parle de notre patrimoine en général et ceux du Nord en particulier. Donc, moi, je suis président de l'ONG Savama de CI qui s'occupe de manuscrits, de conservation des manuscrits. Donc, nous, on peut parler de manuscrits parce que la crise a touché tout le patrimoine aussi que le manuscrit. Parce qu'à un moment, le manuscrit était menacé, on était obligé de le déplacé de Tombouctou vers le rayon du sud. Ainsi, ça s'est bien passé. Maintenant, tu as fait parler des partenaires qui veulent nous aider à réhabiliter les bibliothèques et conserver les manuscrits. On a le gouvernement d'Allemagne, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne qui vient nous accompagner. On sait que l'UNESCO est la fondation Ford qui veut nous accompagner de réhabiliter les bibliothèques et conserver les manuscrits. On sait que Mali 15, à travers l'ex-développement de Luxembourg, qui sont là, ils sont prêts aujourd'hui à nous accompagner.
D'accord. Alors, nous allons demander à M. Berthet de la Tour d'Afrique, un monument en plein cœur de Bamako. Est-ce que vous avez idée du coût, du budget alloué au secteur de la culture par l'État?
Bon, ce serait un peu trop prétentieux pour moi, parce que je ne maîtrise pas ces chiffres-là. Mais je sais tout de même que la culture a un des plus faibles budgets de l'État malien. Donc, c'est pour vous dire un peu que c'est un des budgets les plus faibles. Et l'État ne met pas suffisamment de moyens là-dessus. Mais nous sommes obligés de compter sur les partenaires extérieurs pour nous accompagner dans ce processus-là.
Alors, à la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du Nord, quelle mission vous est assignée aujourd'hui pour la relance des activités et éventuellement pour ce cas précis de la reconstruction du patrimoine détruit dans le Nord, Monsieur Fanny?
Notre mission principale, comme indiqué, c'est réellement mettre en œuvre réellement toutes les stratégies nécessaires pour la reconstruction de tout ce patrimoine détruit. Parce que ce n'est pas seulement les régions du Nord, comme Tombouctou, Gao, mais également il y a un peu le centre, la région de Mopti, qui a également souffert. Parce que vous vous souvenez que les djihadistes ont même occupé Douanza, qui est un peu... Donc également, on va également s'occuper du patrimoine culturel de la ville de Djéné, également, qui est un peu le pays d'Ogon. Donc c'est un vaste chantier qui est là. Et effectivement, nous avons, comme on le souligne, énormément de partenaires qui nous accompagnent, pas seulement l'UNESCO, mais également l'Allemagne, ça c'est le patrimoine documentaire, il y a la Suisse. La coopération suisse également nous accompagne. Donc, ce serait réellement très fastidieux réellement de citer réellement tous ces partenaires. On risque réellement d'oublier certains. Donc, c'est réellement un énorme chantier. Parce que vous savez que sur les 16 mausolées, il y a eu 14 qui ont été complètement détruits. Donc, nous avons mené...
Est-ce que ça va être reconstruit à l'identique?
Effectivement. Parce que c'est des monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, l'UNESCO a des normes. Donc, on va reconstruire à l'identique. Et nous avons déjà démarré, parce que vous savez que, si vous vous souvenez, le 14 mars dernier, le ministre de la Culture sortant, Bruno Méga, a lancé officiellement les travaux de reconstruction du patrimoine. Donc, deux mausolées déjà sont reconstruits, à savoir Baber Fulani et puis Baber Babaïdje, qui sont contigus voilà, à la mosquée de Djingereber. Donc, au mois de mai, nous avons déjà procédé aux fouilles archéologiques pour connaître réellement la structure, la nature réellement des structures, les maçonneries, tout. Donc, ce travail est fait. Comme je l'ai souligné en début réellement d'émission, il y a le document de stratégie qui est déjà validé. Donc, nous attendons réellement le démarrage parce que nous sommes en saison de pluie. Effectivement, les travaux réellement de construction ne sont pas possibles en cette période. Donc, à la fin de l'hivernage, déjà peut-être au mois de septembre, nous allons redémarrer les chantiers et pour que au moins les populations déjà qui tiennent, qui attachent beaucoup d'importance réellement à ce patrimoine, ne soient pas réellement plus ou moins entre guillemets frustrées, parce que d'autant plus que c'est les travaux réellement, comment dirais-je, ne démarrent pas à hauteur de souhait. Voilà.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, les populations sont mises à contribution dans la reconstruction de ces mausolées? Au début, on craignait qu'on mette les populations autochtones à l'écart, les maçons qui ont l'habitude d'entretenir ces mausolées. Est-ce qu'ils ont contribué à la reconstruction du peu qui a été restauré?
Effectivement, parce que, comme vous le savez, en matière réellement de patrimoine, il faut toujours réellement qu'il y ait cette politique de gestion participative. Donc, nous impliquons les populations. À chaque étape du processus, les populations sont impliquées. Bon, pas toutes les populations, bien sûr, les responsables réellement des mausolées, les maçons, parce que vous savez que chaque mausolée a un responsable. C'est confié à une famille et également, il y a un maçon qui s'occupe. Donc, nous avons travaillé au début, que ce soit les relevés architecturaux qui ont été faits au mois d'août et de septembre, également au mois de février, quand nous avons travaillé sur le mausolée Sidi Mahmoud et également le mausolée se trouvant dans le cimetière des Trois Saints. Donc, avant réellement d'intervenir, nous avons eu des rencontres avec les responsables des mausolées ainsi que des maçons. Donc, nous travaillons en synergie réellement avec les propriétaires et les maçons de. Donc, ce problème ne se pose pas.
Alors, Abdelkader Haïdara, vous évoluez dans le privé, si je ne m'abuse. Nous vous demandons de réfléchir un peu à ce que vous avez reçu comme apport et qu'est-ce que les partenaires vous ont apporté depuis que les régions du Nord ont été récupérées. Je vous demande de réfléchir à cette question et nous vous retrouvons juste après cette courte pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alpharouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous êtes connecté sur l'une de nos 23 radios à travers tout le Mali et vous suivez actuellement le grand dialogue du Studio Tamani. Nous parlons aujourd'hui de la mobilisation de la communauté internationale autour de la culture malienne. Cette deuxième partie du grand dialogue est dédiée au défi de la rénovation. Alors, nous avons comme invité Yacouba Berthé, directeur de la Tour d'Afrique, Yamoussa Fané de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du nord du Mali. Nous avons également en ligne Abdelkader Aïdara, propriétaire de bibliothèque à Tombouctou. Alors, monsieur Aïdara, vous êtes en ligne avec nous. Je vous demandais tout à l'heure de réfléchir à cette question qui est de savoir si les partenaires techniques, vos partenaires financiers, les partenaires du Mali vous ont apporté des fonds ou bien des soutiens après la récupération des régions du Nord.
Merci beaucoup. Bien sûr que le partenaire nous a accompagnés depuis le début de crise. Ils ont porté leur aide pour nous aider à sécuriser les manuscrits jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on commence à réfléchir sur le retour des manuscrits à Tombouctou, dans la région de Tombouctou. On a encore contacté nos partenaires qui sont prêts à nous accompagner encore. Il y a, comme j'ai parlé du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne, qui sont prêts à nous accompagner d'une somme de près de 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est de 2014 à 2016. Il y a d'autres partenaires comme Jum Al-Majid de Dubaï qui est prêt aussi à nous aider dans le domaine de conservation de manuscrits, le catalogage. Il y a l'UNESCO aussi qui est prêt à nous accompagner à travers aussi la coopération suisse au Mali. Il y a la Fondation Ford aussi qui est en train de préparer une rencontre de donateurs à la fin de cette année à Dubaï. Donc voilà un peu ce qu'on sait sur le budget qui a été annoncé jusqu'à aujourd'hui.
Alors Abdelkader Aïdara, je reste toujours avec vous. Dites-nous comment est-ce que ça fonctionne. Si je ne m'abuse, il y a plusieurs bibliothèques familiales à Tombouctou qui sont détenues par des particuliers. Et vous, présentez-nous un peu vous, votre bibliothèque. Comment est-elle gérée?
C'est pour cela que moi je te dis que je suis président de l'ONG Savamadissé qui gère toutes les bibliothèques presque. Donc c'est l'ONG Savama qui a organisé la bibliothèque à Tombouctou depuis avant la crise, pendant la crise. Et c'est l'ONG Savama qui est en train d'organiser encore comment il faut retourner, comment il faut reconstruire la bibliothèque qui a été dégradée. Et ensuite la conservation des manuscrits.
Et pourquoi il y a autant de bibliothèques, autant de propriétés privées? Est-ce qu'on peut pas tout réunir dans un même lieu?
Le manuscrit, vous savez que c'est l'héritage. Il y a des familles intellectuelles qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de champs, mais ils ont des manuscrits parce que c'est des intellectuels qui ont écrit. Donc le descendant à cet héritage, dans chaque famille, il y a des manuscrits. Non, en réalité, c'est des dépôts. C'est le dépôt de manuscrits dans chaque famille. Mais nous, on est en train de moderniser ce dépôt pour que ça devienne des bibliothèques, des véritables bibliothèques, pour qu'on puisse commencer à exploiter ces manuscrits. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bibliothèques. Mais en réalité, c'est des familles.
Alors la numérisation aujourd'hui, ça concerne toutes les bibliothèques ou bien des bibliothèques en particulier?
Donc, dans notre programme, on va numériser tous les manuscrits, mais avec l'accord des propriétaires, ceux qui sont d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, on va attendre. On ne peut pas obliger quelqu'un de numériser ces manuscrits, mais on va expliquer pourquoi on fait la numérisation. C'est une partie de conservation de ces manuscrits et leur sécurisation. Aussi que c'est quelque chose qui facilite leur exploitation. Mais on va numériser seulement ceux qui sont d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas les forcer.
Les obliger. Alors, une fois numérisées, ces données sont remises à qui?
Comment?
Une fois numérisées, une fois les manuscrits numérisés, les données sont remises à qui?
Une fois que le manuscrit numérisé, les données, on va les donner à le propriétaire du manuscrit même, à la bibliothèque. Parce que ça va reposer les anciens manuscrits qui, qui datent de très très longtemps, qui sont fatigués. Ça c'est un. Deuxièmement, il y aura une autre copie qui sera dans une autre lieu bien sécurisé, à la Bibliothèque nationale, ou bien là où on a de confiance, on va laisser une autre copie.
Alors, merci beaucoup, Abdelkader Haïdara. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Parmi les difficultés pour la restauration, Monsieur Berthé, des sites culturels au Mali, il y a cette difficulté qu'ont aujourd'hui les partenaires à pouvoir mobiliser les fonds promis pour ces activités de restauration. Ce défi peut-il être relevé, selon vous?
Oui, moi je pense que ce défi peut être relevé dans la mesure où déjà il y a cette volonté qui est là, qui veut faire en sorte qu'il y ait des ressources mobilisées, disponibles pour subvenir à ces besoins-là. Mais je pense également qu'il y a un besoin d'information et de sensibilisation surtout autour du patrimoine. Parce que ce qui nous arrive certainement est dû au fait de personnes de mauvaise foi, mais aussi... Il va falloir que nous-mêmes, en tant que population locale, qu'on puisse prendre conscience que nous avons toute une somme de richesses dans nos mains. Comment faire pour les préserver? Comment faire en sorte que les générations futures puissent prendre conscience que quand on prend le cas de manuscrits, ce n'est pas seulement à Tombouctou qu'il y a les manuscrits. Il y a aussi des endroits comme à Arawane, ou entre autres, qui ont vraiment d'énormes manuscrits. Comme vous l'avez dit, M. Haïdara l'a souligné, c'est des propriétés familiales. C'est des personnes qui disposent de ces ressources inestimables. Il y a, après la numérisation, il y a plein de choses à faire. Il y a la traduction, entre autres, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces manuscrits, et entre autres. Donc, nous avons besoin de partager aussi largement que possible l'information autour de ces patrimoines-là. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui qui y vivons et pour les générations futures, pour qu'on puisse vraiment chacun à son propre niveau puisse participer à sa protection, mais aussi à faire en sorte que ça puisse continuer à vivre et que ça puisse continuer à faire la fierté malienne.
Alors, quand on passe devant la Tour d'Afrique, on a l'impression que rien ne se passe. Dites-nous ce que vous faites, vous, au niveau de la Tour d'Afrique, jusqu'à ce qu'il y ait un directeur pour gérer le domaine.
Bon, tout d'abord, la Tour de l'Afrique, c'est un service d'émission. Qui dit service d'émission dit des tâches spécifiques. Et nous avons vocation essentiellement à faire la promotion du panafricanisme, de l'intégration et de l'unité africaine à travers ses valeurs, ses valeurs culturelles, entre autres. Comme vous le voyez, la tour en elle-même signifie, vraiment représente plein de valeurs, plein d'aspects socioculturels. Vous pouvez y constater qu'il y a l'entraide, la solidarité, l'union.
Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une calebasse qui a beaucoup de trous et plusieurs mains autour pour soutenir et chaque doigt essaye de boucher les trous pour que l'eau ne se disperse dans tous les sens.
Ouais.
C'est un peu ça.
Donc c'est un peu ça. On a juste tiré ça de la culture d'Aumène, du Bénin, le roi Guézo qui disait à l'époque que si tous les enfants du pays venaient par les mains assemblées à boucher les trous de la jarre, de la jarre trouée, que le pays serait sauvé. Donc, et en dessous, on voit une Afrique qui émerge. Et la forme même du monument a la forme d'un flambeau. Donc, c'est pour dire que la victoire, il y a l'espoir, il y a la victoire qui peut arriver. Vous voyez aussi que le style architectural, c'est le style soudano-sahélien. Donc, c'est plein de valeurs que nous avons besoin de propager auprès des jeunes, auprès de la population tout entière. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle, nous avons une documentation qui permet en tout cas de s'enrichir, de venir se ressourcer pour vraiment se cultiver.
Donc une bibliothèque en quelque sorte.
Une bibliothèque, il est prévu aussi une médiathèque, plein d'autres choses. C'est de faire tout ce qui est archivage audiovisuel et sonore. Et mettre à la disposition surtout du public malien.
Alors, si je ne m'abuse, ça a été rénové récemment?
Oui, on a juste fait une rénovation partielle au regard des dégradations que le bâtiment a subies ces dernières années. Mais il a attendu une rénovation complète. parce qu'il y a plein d'autres éléments qui sont certainement, comme vous le voyez, il y a plus de 10 ans que ça existe. Il y a des problèmes d'étanchéité qui se posent, il y a pas mal d'autres aspects qu'on ne voudrait pas souligner ici, mais néanmoins, le processus est déclenché. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse vraiment commencer à fonctionner, qu'on puisse trouver une nouvelle allure et que vraiment qu'on puisse trouver un intérêt pour en tout cas un patrimoine que nous espérons que les Maliens apprécient.
D'accord. Alors une chose est d'aider aujourd'hui le Mali pour la reconstruction des sites culturels détruits, mais une autre chose est de les protéger. Ce défi est en partie pris en charge par la MINUSMA, le volet culturel de la MINUSMA aujourd'hui dans le Nord, mais en partie seulement, et il reste beaucoup à faire. Le Mali peut-il prendre en main cette tâche et de façon convenable, Yamoussa Fane de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du Nord du Mali?
Avec réellement la certitude que le défi sera relevé, parce que bon, d'accord, à l'heure actuelle, nous sommes confrontés réellement à de gros travaux qui nécessitent réellement de gros moyens. Nous, comme je l'ai souligné, nous avons l'accompagnement réellement de la communauté internationale, mais bien avant réellement ces interventions, les communautés elles-mêmes se sont appropriées réellement ce patrimoine, l'ont protégé. Parce que souvenez-vous que, par exemple, quand on prend l'exemple de Djenné, chaque année, la grande mosquée, le crépissage annuel, c'est la communauté qui s'organise et qui font ce crépissage réellement sans l'apport réellement de qui que ce soit. Donc, vous voyez que notre patrimoine, je dirais que les populations réellement, comment dire, le tiennent à bras le corps. Parce que c'est leur patrimoine, ils se sont appropriés et ils sont en train réellement de le transmettre aux générations futures. C'est le même cas également à Tombouctou. Les mausolées, la mosquée et les mosquées généralement sont entretenues par la communauté. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'inquiétude à se faire sur ce point. Mais bien sûr, il faut quand même l'accompagnement également de l'État, du département de la culture qui accompagne généralement la communauté. Quand on prend l'exemple réellement de Djenné, il y a toujours l'apport réellement du département de la culture aux travaux d'entretien annuels de la mosquée. Il en est de même réellement pour d'autres monuments. Donc je pense que cet accompagnement va se poursuivre et j'espère que les gens commencent de plus en plus réellement à s'approprier réellement leur patrimoine, à savoir que le patrimoine réellement fait partie de leur identité. Donc, mais des défis énormes réellement existent. Parce que, comme l'a souligné réellement M. Berthet, il va falloir continuer réellement cette sensibilisation, que les gens s'approprient davantage, surtout nous, les citadins.
Ok. Alors, Abdelkader Haïdara, vous êtes de l'ONG Savannah qui réunit pratiquement toutes les bibliothèques de Tombouctou. La MINUSMA estime que c'est la première fois qu'on confie à une mission de maintien de paix la protection de sites culturels. Est-ce que vous bénéficiez de ce genre de protection à Tombouctou?
Le MINUSMA aussi fait un de nos grands partenaires actuellement, parce qu'à travers l'UNESCO, le MINUSMA est en train de financer la réhabilitation des 4 bibliothèques à Tombouctou. Donc, je pense que le MINUSMA devient un de nos grands partenaires actuellement, en dehors de sécurité même. Mais je pense que le MINUSMA en train de jouer actuellement, ça nous donne le courage d'aller à Tombouctou, de commencer à faire notre travail. Vraiment.
Merci beaucoup. Une courte pause et nous poursuivons avec les perspectives de la culture au Mali.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Des nôtres, nous parlons dans le grand dialogue d'aujourd'hui de la culture, de la mobilisation de la communauté internationale autour de la culture malienne. Ce volet parle des perspectives de la culture malienne et nous avons comme invité Yacouba Berthé de la Tour d'Afrique, directeur de la Tour d'Afrique de Bamako, Yamoussa Fané de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du nord du Mali. Nous avons également en ligne Abdelkader Aïdra, il est bibliothécaire et membre de l'ONG Savana qui regroupe toutes les bibliothèques de Tombouctou. Alors là, nous parlons des perspectives de la culture. Comment le Mali pourra-t-il rentabiliser ses investissements réalisés aujourd'hui sur les sites touristiques du Nord, notamment sur les mausolées, Monsieur Fané?
Bon, pour les mausolées, vous savez que les mausolées représentent, comment dirais-je, ont une importance capitale pour la population parce que c'est des monuments funéraires et généralement les populations viennent se recueillir comme expriment, font des vœux généralement. Donc là, il n'y a pas réellement, il n'est pas facile réellement de quantifier réellement la valeur monétaire. Donc là, c'est la reconstruction, c'est le retour réellement à tout ce qui est valeur spirituelle, à tout ce qui est cohésion sociale. Donc, je pense que là, on ne peut pas quantifier. Ben, je pense que la reconstruction du patrimoine détruit des régions du Nord, déjà, c'est le retour à une certaine identité, qui est très, très important. Bon, d'accord, sur le plan touristique également, parce que, bon, avec le retour de la sécurité, qu'on l'espère, qui sera réellement une sécurité durable et une sécurité pérenne, donc, je pense qu'il y aura le retour réellement du tourisme, parce que vous savez que toutes nos villes touristiques aujourd'hui souffrent réellement de ce manque, parce que le tourisme, il est transversal. Donc,
alors aujourd'hui, sera-t-il permis de tirer profit de ces sites avec les leaders religieux? Est-ce qu'ils vont permettre que l'on puisse tirer profit aujourd'hui de ces monuments, de ces mausolées?
Je ne pense pas qu'il existe réellement de problème à ce niveau. Donc, vous savez, les mausolées, d'accord, je pense que avec, comment dirais-je, la crise sécuritaire et le retour de la paix, je pense que tous ces touristes auront la curiosité réellement de visiter ces monuments. Je pense qu'ils se trouvent généralement dans des cimetières. Bon, je ne pense pas qu'il y ait quand même des garde-fous réellement pour la visite de ces monuments. Bon, et les leaders religieux, en tant que, bon, comme on le sait, on a un islam de tolérance qu'il faut réellement promouvoir davantage. Donc, à mon avis, il n'y aura pas réellement de restrictions.
La foi ne permettrait pas.
Voilà.
D'accord. Alors, nous avons Abdelkader Aïdara, il est bibliothécaire à Tombouctou et membre de l'association Savana, qui regroupe toutes les bibliothèques de Tombouctou. Monsieur Aïdara, comment est-ce que vous parvenez à rentabiliser vos investissements sur les bibliothèques que vous gérez à Tombouctou?
Je pense que M. Fané a bien répondu à notre place, nous tous. À peu près, c'est la même chose. Parce que vous savez que le retour de manuscrits à Tombouctou, ça va nous donner une nouvelle vie, comme avant. Avant les événements, les manuscrits étaient là, les bibliothèques étaient ouvertes pour les touristes, pour les chercheurs. Ça amène beaucoup de gens qui viennent à Tombouctou, ça aide le développement de Tombouctou. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, les activités qu'on amène nous-mêmes, ça crée beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois dans les différentes activités qu'on amène. On a parlé de numérisation, mais il y a aussi la restauration, il y a la conservation, il y a le catalogage, il y a l'exploitation des manuscrits même, parce que il est temps maintenant qu'on commence à exploiter les manuscrits par les traductions. On va traduire certains manuscrits en langue nationale, langue en français, et dans d'autres langues internationales aussi. Tout ça crée des emplois, et ça diminue la pauvreté. Et en même temps, ça va nous aider à bien conserver notre patrimoine écrit.
Est-ce que la visite, par exemple, des bibliothèques que vous gérez à Tombouctou, en tout cas moi j'ai eu l'occasion de visiter celle que vous gérez, elle est très belle, j'ai pas payé, est-ce que vous parvenez à vous en sortir?
Oui, on a un moment, ça c'était bien organisé, les nationaux ne payent pas, les touristes payent, tous les touristes qui arrivent dans une bibliothèque, ils payent 1000 francs. Un moment, on a au moins entre 40 et 50 touristes, visiteurs par jour. Et vous voyez que c'est que ça donne. Mmh. Et qui visitent plusieurs bibliothèques qui payent. Alors, en dehors de ça, il y a des consultations aussi. Il y a des chercheurs qui font leurs consultations. Ça aussi, c'est payant. Et on organise aussi des expositions des manuscrits. Ça aussi, c'est... Parfois, c'est lui. Mmh. Donc, tout ça, ça donne de revenus. Mmh. Ça aide beaucoup.
Alors, vous dites qu'il y a des consultants au sein des bibliothèques. Ça veut dire qu'il y a des marabouts là-bas?
Les consultants, ce n'est pas des marabouts. Les consultants, c'est des chercheurs.
Ah, des chercheurs.
Des chercheurs qui viennent faire les recherches sur l'histoire. Mmh. Les chercheurs qui viennent faire leurs recherches scientifiques. Mmh.
Est-ce que vous accueillez des étudiants?
Souvent, c'est des nationaux, ils sont chez eux, ils partent.
Est-ce que vous accueillez
des étudiants qui viennent d'universités ou bien des professeurs qui viennent d'universités internationales et ils payent la consultation.
Alors, rassurez-moi si la bibliothèque est comme avant, si vous avez pu la restaurer comme avant.
Comment ?
Elle est à l'identique, elle est comme avant, il n'y a pas eu beaucoup de dommages ?
Si, partout il y a eu des dommages, on a perdu beaucoup de matériel, on a perdu beaucoup des images même, de manuscrits. Donc il y a certaines bibliothèques même qui ont effondré carrément, qu'il faut reconstruire. Il y a certains qu'il faut rénover.
Merci beaucoup, Monsieur Aïdra. Vous restez avec nous, Monsieur Berthé, Yacouba Berthé, vous êtes directeur de la Tour d'Afrique. Est-ce que ce système-là aussi existe à la Tour d'Afrique quand les visiteurs viennent, ils doivent payer?
Oui, avant d'arriver à la réponse à votre question, je voudrais quand même ajouter un peu par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. Parlant de la religion, à mon avis, je ne pense pas qu'aucune religion n'interdise les mausolées et autres. La preuve, dans la religion musulmane, il y a les ziyara. Donc les ziyara, c'est permis. Donc à mon avis, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Mais là, on parle de la rentabilité.
Maintenant, par rapport à la rentabilité, avant d'arriver à ça, c'est pourquoi je disais, comme vous le savez, la culture, on ne peut pas évaluer en termes monétaires. Comme on le dit souvent, la culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir
tout perdu.
Donc c'est ça. C'est ce que les autres envient à nous. Qu'est-ce qu'on présente de mieux par rapport aux autres? Donc c'est en ces termes qu'il faut voir la rentabilité. La rentabilité de ces monuments-là ou de ces mausolées ou de sites touristiques. Au niveau de la Tour de l'Afrique, précisément, il n'y a pas de c'est pas payant. Par exemple, pour visiter, c'est gratuit. Et d'ailleurs, on est fier de recevoir les gens. Et au-delà du simple fait de la visite, on est très heureux aussi que, par exemple, quelqu'un qui célèbre son mariage passe faire des photos, entre autres, pour immortaliser leur mariage.
Mais du fait que ça soit gratuit, est-ce que cela ne contribue pas non plus à faire en sorte que voilà, les locaux n'ont pas de fonds nécessaires et la dégradation qui suit, les intempéries, tout?
Non, à mon avis, c'est une éducation aussi qu'il faut faire à ce niveau. Il faut faire comprendre l'utilisation du lieu. Il y a l'appui de l'État qui est très important en termes d'entretien, entre autres. Mais aussi faciliter l'accès aux personnes, c'est très important aussi parce que quand ils viennent, ils apprennent. Donc on leur donne un certain savoir. Donc pour nous, c'est l'élément le plus important. D'abord, il faut donner de l'attrait, il faut permettre aux personnes de venir. Donc c'est ça, c'est pour l'État offre les cadres aux populations ou à la jeunesse, entre autres, de pouvoir apprendre, de pouvoir venir se ressourcer un peu. Donc c'est un peu ça la vision un peu derrière.
Alors, si nous sommes là ce soir, c'est parce que le Mali a vécu une crise et cette crise est en discussion en Algérie. Monsieur Abdelkader Haïdara, est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste au dénouement de cette crise? Vous pensez que la paix est proche?
Vraiment, c'est ce que je pense. Je pense qu'il est temps maintenant que la paix est revenue au Mali. Et j'ai un grand espoir ce soir que j'apprends que tous les Maliens que ça concerne cette crise, ils sont ensemble, ils sont dans une salle en Algérie. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir, vraiment.
Merci beaucoup Abdelkader Haïdara pour ce dernier mot. Le même exercice pour vous, Yamoussa Fane, de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du Nord. Est-ce que vous êtes confiant à l'issue de cette rencontre d'Algérie?
Je vous remercie. Je suis effectivement confiant en tant que Malien parce que je pense que la paix, c'est l'élément le plus important pour le développement d'un pays. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc je pense que les protagonistes réellement réunis actuellement, je pense que chacun mette réellement de l'eau dans son vin et qu'on voit le Mali en tant qu'État, en tant que nation, parce que qu'on doit transmettre aux générations futures. Nous sommes, si je peux me permettre le terme, nous sommes des passagers. Donc il faut que les générations à venir réellement puissent vivre en paix et puissent se consacrer au développement de ce pays. Parce que vous voyez, les 2 ans de crise n'ont rien apporté de bon. Que des pertes en vies humaines, des destructions à n'en pas finir. Donc c'est un recul pour ce pays. Donc si chacun réellement de nous prend conscience réellement de cet état de fait, je pense qu'on aboutira à quelque chose de meilleur. C'est ce que je souhaite réellement pour parler.
Yacouba Berthe, vous êtes le directeur de la Tour d'Afrique. Un mot pour l'issue des pourparlers en Algérie?
Je pense que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Déjà, nous avons franchi un premier pas vers la paix. Le fait seulement de s'asseoir sur la même table pour discuter est déjà un élément important et nous mène sur le bon chemin. Comme l'UNESCO, dans un préambule, le dit, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.
Je n'ajouterai rien à cette citation de Yacouba Berthe, directeur de la Tour d'Afrique. 45 minutes, c'est le temps qui nous a été imparti pour le grand dialogue d'aujourd'hui. Ce temps est fini et nous vous remercions infiniment de l'avoir consacré à notre écoute. Un débat qui portait sur la mobilisation de la communauté internationale autour de la culture malienne, les axes débattus dans ce débat, l'état des sites culturels au Mali et les actions en cours pour leur bon fonctionnement, les défis de la rénovation des sites culturels au Mali et enfin, les perspectives du secteur culturel au Mali. Nos invités, Yacouba Berthe, directeur de la Tour d'Afrique de Bamako, Yamoussa Fane, de la cellule technique pour la reconstruction du patrimoine détruit des régions du nord du Mali. Et enfin, au téléphone, Abdelkader Haïdara, membre de l'association Savana, qui regroupe toutes les bibliothèques de Tombouctou. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté et Peting Diarra étaient à la technique. Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission. Je suis Famoussa Sidibé et nous vous disons à demain pour un autre débat. Merci beaucoup.
Grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halo de Mauni.
Chenibiru. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.